Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Place du Palais Bourbon, le podcast qui connecte élus et citoyens.
Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme.
J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur.
Liberté, égalité, fraternité
et pour sa grandeur.
Bonjour, je suis Léa Chamboncet et je vous parle aujourd'hui, depuis la place du Palais Bourbon, de la crise du logement en France. 12 millions, c'est le nombre de personnes qui étaient concernées en 2019 par la crise du logement. Avec la crise sanitaire liée au Covid-19 et la crise sociale et économique qui en découle, ce chiffre risque de considérablement s'alourdir dans les mois à venir. Au problème structurel de la crise du logement en France vient donc s'ajouter un problème conjoncturel dont les conséquences pourraient être désastreuses si l'État n'intervient pas. C'est bien ce que déplorent certaines associations qui pointent du doigt le manque d'efforts de la part des autorités publiques. La production de logements en résidence sociale stagne depuis plus de 5 ans, beaucoup de communes refusent de respecter les quotas de logements sociaux imposés par la loi SRU, les aides à la pierre sont en baisse, etc. Alors que la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, annonçait le 10 septembre dernier que 150 000 personnes étaient sorties de la rue depuis 2017 grâce à la politique du « logement d'abord », certains acteurs rappellent que sur la même période, ce sont près de 30 000 personnes supplémentaires sortant de la rue ou de l'hébergement d'urgence qui ont trouvé un logement dans une résidence sociale. Les résidences sociales sont fondamentales dans la lutte contre la crise du logement en ce qu'elles permettent aux personnes fragilisées d'accéder et de se maintenir dans un logement. Pour répondre à la crise actuelle, le gouvernement a prévu de consacrer, dans le cadre du plan de relance, 100 millions d'euros à l'amélioration des conditions d'accueil des personnes en situation de grande précarité. Cependant, ce budget ne sera pas suffisant et ne pourra pas permettre de financer un véritable plan de développement des résidences sociales. De leur côté, les associations tentent de répondre aux besoins des personnes mal logées. Elles permettent la création de logements d'urgence, mais proposent aussi des réponses à long terme permettant de trouver une issue durable pour les personnes les plus fragiles. C'est notamment le cas de l'UNAFO, l'Union professionnelle du logement accompagné. Le logement accompagné regroupe toutes les solutions de logement très social, proposant une gestion locative sociale, un accompagnement adapté selon les situations des personnes et des prestations variées. La crise que nous traversons a fait ressortir la pertinence des solutions proposées par le logement accompagné et plus largement son utilité sociale, à un moment où disposer d'un chez-soi est plus important que jamais. Comment répondre à cette crise du logement de manière pérenne et efficace? Comment expliquer le manque de financement du logement social et comment le surmonter? Comment développer et soutenir le logement accompagné? C'est à ces questions que nous tenterons de répondre en interrogeant des députés aux abords de l'Assemblée nationale. En seconde partie d'émission, nous aurons le plaisir d'échanger avec Arnaud de Broca, directeur général de l'UNAFO, qui nous présentera les activités de cet organisme et ses solutions pour lutter contre la crise du logement en France. Mais est-ce que nos députés savent combien de personnes sont concernées par la crise du logement en France ?
Non, pas vraiment, parce que c'est des choses qui sont mouvantes.
Ce sont des millions de Françaises et de Français qui aujourd'hui en souffrent.
Plusieurs millions.
C'est énorme, ça se compte en millions de personnes. Si on compte la précarité énergétique, les problématiques de loyers impayés, les gens qui ne peuvent pas accéder à un logement social ou intermédiaire malgré le DALO, enfin, etc. Je pense que si on cumule tous, ce sont des millions de gens.
Oui, il y a en fait 4 millions de personnes très mal logées et 12 millions qu'on peut considérer comme concernées par le mal logement.
Face à cette situation dramatique, le président de la République a lancé en septembre 2017 le plan pour le logement d'abord et la lutte contre le sans-abrisme. Le député LREM de l'Indre, François Jolivet, également rapporteur du budget du logement et de l'hébergement, nous a détaillé ce plan dans ses grandes lignes. Écoutons-le.
Alors, le logement d'abord, le principe s'inspire en fait de ce qui se passe dans les pays nordiques. C'est d'éviter la phase de centre d'hébergement avant l'accès au logement. Et ça concerne les publics que l'on pourrait dire qui sont aujourd'hui à la rue. Et plutôt que de les mettre dans les centres d'hébergement d'urgence, de les mettre dans un logement avec un accompagnement, puisqu'en fait le retour à l'autonomie dans la gestion des logements est difficile pour eux. Aujourd'hui, le ministère, alors parce que c'est le ministère du Logement et la Direction Générale de la Cohésion Sociale qui gère, c'est donc deux ministères gèrent un même sujet. On annonce 80 000 personnes sur l'année 2000, depuis l'ouverture du dispositif, qui seraient entrées directement dans le logement. Je pense qu'il faut nuancer un peu les chiffres qui sont annoncés. C'est mon côté d'expertise qui me permet de le dire. Parce qu'en fait, vous avez beaucoup de sorties aussi de centres d'hébergement. Donc le logement d'abord a permis de faire sortir beaucoup plus de gens des centres d'hébergement. Maintenant, il y a aussi des réussites de gens qui étaient directement dans la rue et qui ont été accompagnés par des associations type Aurore, si on prend cette association en région parisienne, qui sont entrées directement dans le logement avec cette phase de réapprentissage de la vie et de la maîtrise de l'autonomie du logement. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Ça ne va pas assez vite parce qu'en fait, on a un vrai sujet dans la politique de l'hébergement et du logement de notre pays. Vous avez deux types de populations. Vous avez la population qui est d'une part à la rue. Là, l'objectif du gouvernement, c'est de mettre à l'abri. Donc cette population est de deux types. Vous avez des gens qui sont en situation régulière sur le territoire français, des gens qui sont en situation irrégulière. Les gens en situation irrégulière sont hébergés maintenant par le ministère de l'Intérieur dans des centres. Depuis l'année 2020 d'ailleurs, parce que c'est une première, le ministère de l'Intérieur aujourd'hui gère des centres d'hébergement avec l'appui du secteur associatif. Et puis vous avez le ministère du Logement qui gère des centres d'hébergement dits d'urgence, qui sont différents des autres, qui sont d'ailleurs dans le budget que je rapporte, qui représente 2,2 milliards. Et de ce fait, vous avez aujourd'hui deux lignes parallèles qui atteignent les mêmes objectifs avec des populations qui ont des situations juridiques différentes sur le territoire. On a des réussites, mais on a aussi des échecs, parce que ça se saurait si tout le monde avait un logement et si plus personne n'était dans la rue, ce qui n'est pas le cas.
Pour le député Écologie, Démocratie et Solidarité du Val-d'Oise, Aurélien Taché, ce plan va dans le bon sens, mais reste insuffisant.
Alors moi, je suis totalement en phase avec la philosophie du logement d'abord. Pour le coup, c'est moi qui avais proposé à Emmanuel Macron dans son programme d'inscrire des objectifs ambitieux sur cette politique. Je m'occupais de ça auparavant pour les ministres du logement du quinquennat précédent. Mais on n'est pas du tout au niveau où il faudrait être, en fait, pour pouvoir vraiment répondre. L'hébergement d'urgence aujourd'hui en France, ça concerne environ 150 000 personnes. L'hébergement d'urgence, c'est quoi? C'est 6 heures du matin, il faut faire le 115 et on peut aller dans un centre éventuellement qui va vous prendre une nuit, deux nuits. Parfois, c'est dans un hôtel à 50 km de là où vous êtes. Comment vous voulez que les gens s'en sortent, retrouvent un emploi, se stabilisent comme ça? Le logement d'abord, c'est OK, vous êtes à la rue, on ne va pas passer par le système du 115 ou de les hôtels, etc. On va directement essayer de vous mettre dans un logement avec un travailleur social qui vous accompagne. Parce que si vous êtes à la rue, c'est qu'il y a des problèmes, c'est qu'il faut reprendre un certain nombre de choses, comment on trouve un minimum de ressources pour payer son loyer, comment on fait les démarches, comment on essaie de reprendre une vie sociale. Mais effectivement, les résultats sont vraiment meilleurs. Simplement, aujourd'hui, ce qui est prévu est très très insuffisant par rapport aux 150 000 personnes sans abri.
Pour Valérie Thomas, députée LREM du Puy-de-Dôme, la politique du logement d'abord ne va pas assez loin et il est nécessaire de procéder à un recensement très précis des difficultés d'accès au logement afin de pouvoir y répondre de manière spécifique.
Effectivement, c'est une politique qui avait été lancée par Julien de Normandie lorsqu'il était ministre dédié, donc qui commence à porter ses fruits. Mais le problème, c'est que la situation est tellement complexe et l'ampleur est tellement vaste que je pense qu'il faut qu'on aille encore plus loin. Et c'est pour ça que je reviens sur cette idée du recensement local le plus fin possible sur les territoires pour vraiment apporter les réponses les plus fines et les plus précises.
Plus globalement, les députés que nous avons interrogés considèrent qu'il n'y a pas suffisamment de logements sociaux en France. C'est notamment le cas du député socialiste de Seine-et-Marne, Olivier Faure, pour qui il est nécessaire d'en construire davantage.
Ma grande majorité de Français sont éligibles aux logements sociaux et on le sait bien, le pouvoir d'achat est une question centrale et l'accession au logement est une grande difficulté. Et donc oui, il faut construire beaucoup plus de logements sociaux que nous en construisons actuellement.
Même constat du côté d'Aurélien Taché, pour qui il faut développer les solutions pour favoriser la construction de logements sociaux.
Ça fait partie, malheureusement, du bilan de ce gouvernement. Parce qu'en 2018, on a très largement baissé les APL et pour que les gens qui soient en HLM ne supportent pas ce coût, on a pris l'argent aux organismes HLM eux-mêmes qui ont dû, du coup, baisser les loyers d'autant. Sauf que ça, c'est les fragiliser. C'est faire en sorte qu'ils aient moins de moyens pour construire du logement social. Et effectivement, il y a... des réformes à faire dans le monde du HLM. Il n'y avait pas assez de construction déjà avant. Mais ce n'est pas en fragilisant comme ça les moyens qu'ils ont pour construire qu'on y arrivera. Il aurait, à mon avis, mieux valu avoir des réformes plus ambitieuses sur les objectifs de construction de logements sociaux dans les villes qui ne respectent pas, comme à Neuilly-sur-Seine, sur le fait de pouvoir prendre des logements aussi dans le parc privé. Moi, si demain je suis propriétaire d'un logement, je veux bien le louer à une famille qui a des difficultés, mais peut-être qu'il faut qu'un organisme social fasse l'intermédiaire. C'est tout ça qu'il faudrait développer. Malheureusement, ça n'a pas l'air d'être une des priorités du gouvernement. Moi, j'ai proposé qu'on, pour cette crise, par exemple, un amendement pour qu'on construise des logements étudiants, pour que les étudiants aussi aient accès à des résidences sociales, parce que beaucoup renoncent à leurs études en raison, finalement, du coût du logement. Et avec cette crise, ça va être encore pire. Tout a été rejeté par le gouvernement.
Ce dernier précise que l'on ne parle pas assez du logement accompagné et qu'il est impératif de pouvoir le promouvoir.
On ne parle pas assez de tout un univers qui est celui du logement accompagné, où vous avez des acteurs du logement qui sont plutôt des acteurs associatifs, mais qui vraiment proposent des solutions très innovantes et très en pointe pour que les gens ne soient pas seulement mis à l'abri, mais puissent vraiment être insérés dans le logement. Et effectivement, le logement accompagné à travers des organismes comme l'UNAFO, comme la FAPIL, comme Solia, propose des solutions qui sont vraiment très intéressantes. L'idée, souvent, c'est quoi ? C'est par exemple, vous allez avoir une agence immobilière à vocation sociale qui loue un logement pour des personnes en difficulté, qui s'assure avec le propriétaire que effectivement les loyers seront payés, l'association prend sur elle de dire s'il y a des impayés, je les assurerai. Les travailleurs sociaux de l'association viennent voir les gens régulièrement pour voir si les choses se passent bien, etc. Et ce suivi-là fait que des gens qui sont parfois très abîmés par la vie, quand on est dans la rue, on est souvent très abîmés par la vie. Un divorce, le chômage, une rupture familiale, l'alcool, plein de choses font que vous n'êtes plus en capacité seul de faire face pendant les premiers mois, pendant les premières années à un logement. Et si vous êtes accompagné pour ça, en fait, vous y arrivez, vous reprenez pied, vous retrouvez un emploi, vous vous réinsérez dans la vie et vous n'êtes pas ballotté d'hôtel ou de centre de sans-abri en centre de sans-abri. Et donc le logement accompagné, c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer, qu'il faut faire connaître. Il faut aussi que les métiers de l'immobilier s'en emparent. Les agences immobilières, les promoteurs immobiliers, tous ces acteurs de l'immobilier finalement classique doivent développer aussi cette filière sociale qui est le logement accompagné.
Comment l'État peut intervenir là-dessus ?
L'État peut par exemple dire que sur le financement de la partie accompagnement social, il va intervenir beaucoup plus fortement. Aujourd'hui, on a des choses qui ont été mises en place, c'est ce qu'on parlait juste à l'instant sur le logement d'abord, mais c'est encore beaucoup trop faible et il faut aussi peut-être fixer des objectifs à ceux qui font de la promotion immobilière, à ceux qui sont dans les agences immobilières. Il faut peut-être inventer des mécanismes qui soient incitatifs pour eux. Il y a plein de manières de faire pour que finalement ce modèle-là se développe, mais je le redis, je pense que ce sujet est aujourd'hui beaucoup trop en dessous des radars et que c'est pourtant, avec la crise qui arrive, quelque chose qu'il va falloir développer. Moi, je ne veux pas qu'on retrouve ce qu'on a connu en France au moment des années 70 avec le bidonville de Nanterre et autres. Et si on ne fait rien, on va aller vers ça. On va aller vers des gens qui, effectivement, parfois viennent d'arriver en France, parfois ils sont depuis longtemps, parfois sont français depuis des générations et qui vont se retrouver à être dans des habitats de type bidonville aux portes de nos villes parce qu'on n'aura pas été capable de les accompagner, parce qu'on n'aura pas été capable de faire suffisamment d'offres sociales dans le logement.
Ce constat est partagé par Olivier Faure, qui insiste également sur la nécessité d'encourager la mixité sociale.
Alors, ce que nous faisons dans ma circonscription, avec un certain nombre d'associations et d'ailleurs sociaux, c'est que nous essayons aussi de maintenir la mixité sociale et faire en sorte que, notamment, les personnes handicapées, les personnes âgées, les migrants dont vous parlez, ne soient pas systématiquement conduits à être dans des ghettos. Et nous avons encore trop d'hôtels sociaux qui sont, en fait, finalement, des endroits où on parque des gens qui sont en grande difficulté et où on ne les aide pas à rebondir, mais au contraire, on les enferme dans une forme de société parallèle.
Enfin, la députée LREM du Var, Sereine Mauborgne, considère que l'accompagnement est fondamental, quel que soit le motif de non-accès au logement.
Je pense que c'est toujours intéressant en fait d'avoir de l'accompagnement, quel que soit le motif de non-accès au logement finalement.
Nous allons désormais échanger avec Arnaud de Broca, délégué général de l'Union professionnelle du logement accompagné. Bonjour Arnaud de Broca, vous êtes le délégué général de l'UNAFO. Pouvez-vous nous expliquer ce que fait votre structure ?
C'est une union qui existe depuis un peu plus de 40 ans, à l'origine dédiée aux foyers de travailleurs migrants. Et au fur et à mesure des années et des décennies, qui s'est élargi à englober un certain nombre d'autres problématiques, la question du logement jeune, la question d'autres types de logements, mais qui se retrouvent tout autour d'une même idée, c'est-à-dire permettre à un certain nombre de personnes d'accéder et de se maintenir dans un logement dit accompagné, avec un certain nombre d'utilités sociales dans ce logement accompagné, justement pour leur permettre d'avoir un logement, mais d'avoir aussi cet accompagnement, de sortir de l'isolement, de pouvoir bénéficier d'un accompagnement global avec un certain nombre de partenaires. Donc nos adhérents de taille extrêmement variée et différente gèrent à la fois des dispositifs de pension de famille, dont on parle beaucoup depuis qu'il y a des objectifs très forts dans le plan logement d'abord sur le développement des pensions de famille, mais c'est aussi des résidences sociales de type extrêmement varié, puisque chaque résidence sociale a son projet social et donc va loger des personnes aux profils différents, que ce soit par exemple des personnes, des femmes victimes de violences conjugales, des familles monoparentales, des travailleurs précaires. Donc un dispositif de résidence sociale très très vaste et finalement très agile par rapport aux demandes. Donc ça fait partie de ces spécificités, avec des foyers de jeunes travailleurs, des logements étudiants et aussi des foyers de travailleurs migrants qui sont de plus en plus transformés depuis un certain temps pour aboutir à des logements de meilleure qualité et une individualisation des logements pour les travailleurs migrants.
Quelle est la situation actuelle du logement en France ?
La situation du logement aujourd'hui en France, elle est effectivement assez complexe puisqu'on a une situation de mal-logement qui est citée et relevée par de nombreux experts et je pense que tout le monde peut le constater. Et ça couvre évidemment des situations différentes. Quand on parle mal-logement, difficulté de logement, on pense sans aucun doute tout de suite aux personnes qui sont à la rue, avec des situations extrêmes de pauvreté, de difficultés à la fois de se loger, mais tout ce qui est autour d'accès à une aide alimentaire. Donc on sait très bien que la difficulté de toutes ces personnes qui sont à la rue est majeure et dure depuis des années, sans qu'on trouve véritablement de solution, malgré la politique du logement d'abord. Même si on a vu que pendant la crise sanitaire, on pouvait arriver à trouver peut-être des solutions dans des délais parfois rapides, mais on voit bien que la situation des personnes à la rue reste évidemment très 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 problématique et scandaleuse pour un pays comme le nôtre. Mais le mal logement, au-delà de ces questions-là, c'est aussi toutes les personnes qui sont justement mal logées, c'est-à-dire dans un habitat qui est indigne parce que c'est dans des cabanes, dans des tentes, mais c'est aussi indigne parce que mal isolé. On voit bien qu'il y a un problème, évidemment, lié à l'énergie, à l'isolement d'un certain nombre de logements. Donc, précarité, logement, tout ça forme évidemment un cocktail très, très compliqué et difficile pour toutes ces personnes-là. Et puis, c'est aussi le logement, c'est des logements avec une surpopulation qui peut être importante. Et donc, toute cette situation du mal-logement aboutit finalement, et on l'a vu dans la période de la crise sanitaire qu'on a vécu au printemps, mais qu'on vit encore maintenant et qu'on va revivre encore plus, visiblement, montre à quel point le logement a un impact évident sur cette crise sanitaire. Il y a eu plusieurs études qui ont montré que parmi les personnes les plus contaminées ou les plus confrontées à cette crise, on trouve différents facteurs, le logement avec la surpopulation dans un certain nombre d'endroits, avec la précarité aussi, les deux allant souvent ensemble. Donc on voit bien à quel point lutter aussi contre le mal-logement a abouti à lutter aussi contre beaucoup de choses et la crise sanitaire a montré bien évidemment à quel point pouvoir bénéficier d'un logement digne, décent, était un élément important et essentiel, et notamment pendant le confinement. Donc une situation du mal-logement de manière générale qui est effectivement toujours préoccupante et à laquelle finalement on arrive peu à trouver de solution.
Mais quelles seraient les solutions à mettre en place pour répondre à cette situation et lutter contre la crise du logement ?
Alors, des solutions, peut y en avoir. En tout cas, il y a la politique actuelle sur le logement d'abord, qui est menée depuis 2-3 ans, qui vise véritablement à permettre à tout le monde d'accéder à un logement et à un logement aussi digne et décent. Cette politique-là, elle porte sur plusieurs objectifs, à la fois mobiliser un certain nombre de territoires sur certain nombre d'enjeux, avoir développé un certain nombre de projets liés notamment aux pensions de famille. Donc on voit qu'il y a une volonté derrière, et je pense une volonté contre laquelle on ne pourra plus, quelle que soit l'alternance électorale, à laquelle on ne pourra plus revenir. Je pense que tout le monde comprend bien que l'accès à un logement est essentiel. Par contre, c'est une politique qui, même si les chiffres annoncés par le gouvernement montrent qu'il y a, cette politique a permis à 150 000 personnes à peu près de sortir de la rue, on voit bien qu'il faut maintenant changer un peu d'échelle ou l'accélérer. Et notamment le premier point, et là, on peut pas imaginer une politique sur le logement d'abord, sans construire davantage de logements. Et ça, certainement, cette politique du logement d'abord qui est là depuis 2-3 ans, sur ce point de vue-là, est plutôt en régression, où c'est limite. La construction de logements, de nouveaux logements sociaux, n'est pas à la hauteur, parce que l'État a pris aussi un certain nombre de mesures qui ne permettent pas de développer cette construction. Je pense par exemple à toutes les mesures qui ont été prises vis-à-vis, concernant les aides au logement, mais aussi vis-à-vis d'un certain nombre de mesures prises pour, ou contre, plutôt, le mouvement HLM et la construction de logements sociaux. Donc tout ça fait que dans la politique actuelle, ce qui manque certainement, c'est le volet construction de logements. Donc la situation actuelle, elle est quand même compliquée. Le mal-logement reste une réalité pour des millions de personnes. La rue reste aussi une réalité pour un nombre très important de personnes, sans véritablement solution pérenne à la suite. Et donc, il y a le volet construction de logements qui manque véritablement dans cette politique. Nous, en tant qu'acteurs du logement accompagné, ce sur quoi on milite, c'est justement de montrer en quoi les dispositifs qu'on peut proposer à des publics extrêmement variés peuvent apporter une réponse à la situation de mal-logement et aux difficultés de mal-logement. Donc, c'est pas la seule réponse, mais c'est une réponse qui est à la fois multiple et certainement sous-évaluée par les politiques publiques. Alors, qui est multiple parce que on permet nos différents adhérents avec différents dispositifs permet de loger des personnes qui sont souvent dans des situations précaires ou vulnérables, mais aussi avec des profils extrêmement variés. Il peut s'agir de jeunes travailleurs, d'étudiants, mais aussi de travailleurs précaires, de travailleurs, un peu les travailleurs finalement qu'on appelait pendant la crise et qu'on appelle toujours les travailleurs en première ligne. On s'est rendu compte qu'ils étaient en première ligne, mais souvent avec des statuts extrêmement précaires. Et finalement, c'est souvent ces gens-là à qui le logement accompagné permet d'offrir un logement. Donc, des publics extrêmement variés, avec des revenus souvent précaires, donc ils ne peuvent pas aller dans le logement social ou privé, mais qui peuvent effectivement aller dans un logement accompagné, d'autant plus que avec le système de l'APL majoré, l'APL foyer, le reste à charge pour eux reste extrêmement extrêmement faible. Donc le logement accompagné a vraiment cette vertu, me semble-t-il, d'être finalement une boîte à outils multiple pour garantir et assurer un logement à des personnes très très variées et pendant le temps qui est adapté à leur situation, à trouver peut-être d'autres solutions de logement, se reconstruire. On va bientôt sortir une étude où on voit aussi que les personnes qui rentrent dans nos logements sont souvent précaires et que la majorité de celles qui sortent après ont réussi finalement à se reconstruire et peut-être à trouver aussi des termes de revenus à être finalement un peu moins précaires. Donc une grande diversité de logements pour des publics très variés, souvent au cœur des villes, puisque l'intérêt du logement accompagné, c'est aussi de proposer des logements proches des centres-villes ou proches des bassins d'emploi. Le logement accompagné reste, selon nous, souvent méconnu ou pas assez utilisé par les pouvoirs publics justement pour lutter contre le mal-logement. Dans la politique du logement d'abord, par exemple, il n'y a pas d'objectif de création de résidence sociale, mis à part la question des pensions de famille. Mais les pensions de famille sont un peu des dispositifs un peu différents puisqu'ils s'adressent à des personnes qui vont là rester de manière beaucoup plus longue, vraisemblablement, dans les pensions de famille par rapport à d'autres dispositifs. Et donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est que cette boîte à outils, ce couteau suisse, cette variété de dispositifs que représente le logement accompagné soit davantage utilisé et mis en valeur par les pouvoirs publics pour répondre à toutes les situations. Dans une enquête qu'on a faite récemment, on montre que parmi les personnes qui entrent dans nos dispositifs, finalement, à peu près 10 000 viennent directement de la rue ou de l'hébergement d'urgence. Ça montre quoi ? Ça montre que forcément, on a un rôle dans l'accès à un logement de toutes ces personnes-là. Et ne pas utiliser le logement accompagné, les résidences sociales dans cette politique-là, nous semble être une erreur. Et on milite effectivement pour que le logement accompagné trouve toute sa place. Alors peut-être que avec la nouvelle ministre, on a trouvé une écoute un peu différente puisqu'elle nous annonce vouloir développer justement les résidences sociales et le logement accompagné, fixer un certain nombre d'objectifs aussi en termes de production, ce qui était essentiel pour nous. Peut-être qu'on va arriver finalement à travailler véritablement sur le sujet, à se poser un certain nombre de questions sur le logement accompagné, sur comment le développer, comment réfléchir à son modèle économique aussi, puisque se pose là aussi un certain nombre de questions. Actuellement, la production de résidences sociales stagne, si ce n'est recule. Donc, ça pose évidemment pour nous d'énormes questionnements sur la reconnaissance du logement accompagné par les pouvoirs publics.
Vous parliez du modèle économique du logement accompagné. Avez-vous des pistes pour l'améliorer ?
Ces questionnements sur le modèle économique doivent être travaillés. Alors, c'est des questionnements à la fois en termes de subventions d'investissement pour produire les résidences sociales, mais aussi en termes de financement de fonctionnement. Et là, un de nos sujets, c'est la question de l'aide à la gestion locative sociale, qui est une aide qui permet de financer la gestion locative sociale, c'est-à-dire l'accompagnement que vont apporter les gestionnaires de résidences sociales, les travailleurs dans les résidences sociales, pour permettre aux personnes de mieux gérer leurs revenus, de sortir de l'isolement, etc., etc. Et cette aide à la gestion locative sociale, chaque année, on a une enveloppe budgétaire qui est votée dans la loi de finances de 26 millions d'euros, et chaque année, on a à peu près un tiers de cette enveloppe qui est redéployée vers d'autres dispositifs, en l'occurrence l'hébergement d'urgence. C'est-à-dire qu'on a une situation où le Parlement vote chaque année une enveloppe de 26 millions d'euros pour financer véritablement des résidences sociales, un accompagnement, des projets qui sont pleinement dans la politique du logement d'abord. Et chaque année, on en redéploie un tiers pour financer des situations d'hébergement d'urgence qui sont tout à fait légitimes, mais qui viennent limiter l'accompagnement possible dans les résidences sociales. Donc nous, ce qu'on revendique sur le sujet, c'est déjà à minima et très rapidement de pouvoir financer la totalité de cette enveloppe pour les résidences sociales, ce qui nous permettra à nous déjà que toutes les résidences sociales puissent en bénéficier, ce qui n'est pas le cas pour le moment. C'est-à-dire une résidence sociale sur cinq ne bénéficie pas de cette subvention, avec toutes les difficultés qu'il y a derrière pour la faire fonctionner. Que cette enveloppe donc soit pleinement dépensée pour les résidences sociales, mais aussi qu'on réfléchisse peut-être davantage à la faire évoluer, y compris à la revaloriser et à l'augmenter. Cette subvention-là, c'est la seule que reçoivent les gestionnaires de résidences sociales pour faire fonctionner la gestion locative sociale. Et on voit bien tous les rapports, enfin, il y a un certain nombre d'études qui montrent quand même à quel point cette gestion locative sociale, cet accompagnement est essentiel pour tous les publics qu'on loge.
Quelle utilité représente le logement accompagné pour surmonter la crise que nous traversons actuellement ?
Justement, nous, l'accompagnement, c'est aussi d'être en partenariat avec un certain nombre d'acteurs. Et en ça, par exemple, le logement accompagné est selon nous un acteur essentiel du plan de relance actuel, parce que on va permettre de loger un certain nombre de travailleurs précaires en raison de la crise, mais aussi parce qu'on va, par exemple, pouvoir loger tous les apprentis, tous les jeunes. Donc, on est un élément évident du plan logement jeune que souhaite développer et mettre en place le gouvernement. En tout cas, le gouvernement en fait une priorité. Donc, c'est intéressant de voir aussi à quel point nos dispositifs et le logement accompagné luttent contre le mal logement, favorisent aussi un certain nombre de mises en œuvre de politiques. J'ai parlé du plan de relance, mais je pourrais parler aussi de la prévention des femmes victimes, de l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales et d'autres types de politiques aussi, sur les travailleurs migrants, évidemment. Donc, on a là un sujet, des dispositifs vraiment, et nous, on insiste là-dessus, à la fois boîte à outils pour les élus, parce que très, très variés, et qui répondent aussi à un certain nombre de politiques publiques. L'autre enseignement, un des autres enseignements de la crise sanitaire, c'était aussi par rapport aux foyers de travailleurs migrants. Donc, les foyers de travailleurs migrants sont des foyers qui existent depuis des décennies et pour lesquels un plan de transformation s'est mis en place depuis 1997. Donc, ça remonte à longtemps. Trop longtemps, on pense à l'UNAFO qu'on aurait pu aller plus vite et qu'on peut maintenant aller plus vite. Et la crise sanitaire a montré à quel point, finalement, les foyers de travailleurs migrants pouvaient être des lieux très, très propices au développement des contaminations liées au Covid. Donc, cette crise sanitaire nous montre aussi à quel point il faut aller rapidement pour transformer ces foyers de travailleurs migrants et arriver à l'individualisation des logements de ces travailleurs migrants.
Merci beaucoup Arnaud de Broca pour cet échange. C'était Place du Palais Bourbon. Merci de nous avoir écoutés.
Au revoir.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.